Le retour de Radio X.
C'est de la snoute. La snoute.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Radio X.
Hey, c'est demain, Jordan, au Capitole. C'est des auditeurs de Radio X en passant là, avec qui on va prendre contact dans les prochaines minutes pour leur dire « Hey, vous avez gagné ben une table VIP, gang de chanceux. »
Puis je vais être là, en plus.
On va avoir du
fun en Boswell. C'est un méchant bon gala. J'ai hâte d'aller voir ça. En plus, au Capitole, c'est la première fois que je vais assister à un gala de boxe dans le Capitole directement.
Je pense, ça se peut-tu que c'est la première expérience aussi au Capitole?
Ouais.
Là, il y a deux noms, moi. Écoute, sont tous bons, mais il y a deux noms qui attirent mon attention. Là, c'est Wilkins Mathieu, qu'on a reçu ici quelques fois, puis aussi Léla Beaudoin. On a invité son entraîneur parce que c'est un gars qui... C'est un tripeux de boxe, je vous le dis tout de suite. Là, Samuel Descaries-Drolet, salut.
Bonjour, bonjour.
T'as fait, toi, t'es dans la boxe depuis combien d'années, Samuel?
Ça me rajeunit pas, là, mais je dirais que ça doit faire proche d'une trentaine d'années.
OK. Mais t'as l'air tout jeune.
Oui. Non, mais j'ai commencé dans un gymnase de boxe, puis après ça, éventuellement, je suis devenu entraîneur. Mais en termes d'être entraîneur, ça va faire une vingtaine d'années.
Y a-tu quelqu'un qui, à un moment donné, t'a marqué dans la boxe pour te donner cette fougue-là,
en fait,
cette passion-là?
Oui, tout à fait. J'ai commencé avec mon cousin. Lui, il habitait à Saint-Michel, à Montréal, puis c'était un quartier où ça brassait pas mal. Et souvent, il se faisait taxer dans le métro, donc il se faisait voler ses souliers, les manteaux, puis des fois, ça brassait. Alors, son beau-père avait dit « Hey, les boys, tant qu'à vous battre dans le métro, là, pourquoi vous apprenez pas à vous battre pour de vrai? » Alors, on était allé faire un petit tour au gym de boxe, puis lui a fait de la boxe vraiment, là, il est devenu professionnel, il s'appelle Antonin Descaries. Il a fait un parcours amateur, parcours professionnel. Et on s'entraînait aussi avec Jean-Pascal, qui était un bon ami, qui est encore un ami.
Qui boxe encore, hein? C'est pas fini?
Ouais,
ou c'est sur le point fini?
Il va boxer bientôt. Là, il va boxer bientôt. On lui souhaite que ça soit son dernier. c'est ça. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai mis le pied dans la boxe. Je suis resté très proche d'Antonin et de Jean. Puis eux, quand ils sont passés chez les professionnels, on parle 2004. 2005, après les Olympiques d'Athènes, quand ils sont passés chez les professionnels, j'ai commencé avec eux. Puis, comme tu me le disais hors d'onde tantôt, là, j'ai étudié à Québec à l'Université Laval. Et puis, j'ai eu l'occasion de travailler avec la famille Bizier, qui était une famille très bien établie ici à Québec en termes de boxe. Donc, toute la famille faisait de la boxe. Sandra Bizier, elle a été championne nationale pendant plusieurs années. Kevin Bizier a une belle carrière professionnelle. Les jumeaux Yann et Yannick ont fait aussi de la boxe. Il y en a qui étaient équipe nationale, équipe du Québec. Donc, c'est une super famille qui est entraînée par leur père, Rémi Bizier.
Tu vis des belles expériences. Je pense que t'es allé en Arabie Saoudite. Ça se peut-tu?
Ça fait quatre fois, je pense, que je vais en Arabie Saoudite dans les deux dernières années, si on veut.
Ouais. C'est comment là-bas, l'ambiance? Parce que...
C'est vraiment surprenant parce que je m'attendais pas du tout à ça. Quand je regardais un petit peu qu'est-ce qui se faisait là, sur les médias sociaux, quand je regardais, je faisais des recherches aussi là, pour en apprendre un petit peu plus sur le pays, je m'attendais pas à ce que j'ai vécu là-bas. Vraiment, c'est un beau pays, les gens sont super accueillants, très respectueux. La nourriture est excellente. J'ai vraiment là rien à dire, mais c'est sûr que j'étais là en tant que touriste privilégié, si on veut, parce que j'étais là dans un cadre sportif, on était invité et tout. Donc, j'ai peut-être pas vu l'envers de la médaille, mais ce que moi, j'ai eu la chance de voir, c'était exceptionnel.
Parce que t'as Riyad, hein, les combats.
Exactement, exactement.
C'est quand même une grosse ville, là, c'est la planète, ça, là.
Tout à fait.
C'est demain soir. Léla, 14-2. Mm-hmm. Il y a aussi Wilkins, aussi. C'est deux championnats en passant. Hein?
Tout à fait. Léla va se battre en combat de championnat du monde par intérim. Donc, c'est un gros combat. Elle se bat contre Paulina Angel, qui est une Colombienne. Angel, elle a perdu... Les deux, ils ont un parcours un petit peu similaire. C'est-à-dire que elles ont vécu une défaite quand même assez tôt en carrière. Elles ont su rebondir. Elles se sont battues en combat de championnat du monde, donc sur la plus haute, la plus grande scène, si on veut. Léla, quand elle s'est battue contre Bumgarner, c'était 15 millions de personnes qui regardaient ça sur Netflix. Donc, c'est pas...
Ah, c'est une vitrine incroyable pour elle,
Exactement. Puis là, les deux ont trébuché en championnat du monde. Elles sont retournées au travail, puis là, elles ont l'occasion de se rebattre en championnat du monde, une contre l'autre.
Comment tu prépares ta boxeuse ou en général tes boxeurs? Comment? Parce que toi, je sais qu'aussi, au niveau psychologique. Tu as même une formation là-dedans, là, je pense. Hein? C'est ça? Ou un,
J'aime beaucoup la psychologie sportive. Ça, c'est okay. certain. C'est très important dans le domaine du sport, surtout le sport de haut niveau. Mais donc, comment j'entraîne mes athlètes? Écoute, faudrait que je te montre mon ordinateur. Faudrait que je te montre mes schémas. Faudrait que je te montre mes planifications. Mais c'est tout un casse-tête.
Parce que dans la tête du boxeur ou de la boxeuse, ouais. je suppose que toi, tu le prépares à ce que quand le combat commence, il n'y a aucun doute dans sa tête qu'il va gagner.
Exactement. C'est l'objectif. L'objectif, c'est que l'athlète arrive là tellement bien préparé qu'il n'y a aucun doute. Ceci étant dit, il ne faut pas être trop confiant non plus. Il faut tout le temps avoir une certaine...
parce que la chaîne peut débarquer vite.
Exact. En boxe, un coup de poing peut tout changer. On l'a vu.
Il peut être vite. Ça peut être dans les 15 premières secondes. Là.
Tout à fait. Donc, on a fait un beau travail avec Leila à ce niveau-là. Puis, je ne suis pas inquiet. On a aussi bien préparé, bien monté sa carrière de sorte que... Dans sa carrière, elle a fait face à différents types d'adversaires qui la préparent à faire face à ce qu'elle va voir demain soir dans le ring.
Tu as parlé, Samuel, de la défaite contre Bo Gartner. Est-ce qu'il y a une approche différente quand on construit le prochain combat, justement, vu qu'on a perdu le dernier, tu sais, au niveau de la confiance et tout? Il faut peut-être un peu reconstruire certains éléments.
En fait, je te dirais qu'avec Leila, c'est particulier parce que j'ai pas eu à reconstruire quoi que ce soit.
Okay.
Elle a terminé le combat en force. Et puis, c'est un peu l'image que tout le monde a gardée. Puis les commentaires qui étaient là, c'était tous des commentaires par rapport à son cœur, par rapport à sa volonté, à comment elle est revenue dans le combat, comment elle a terminé fort. Donc, ça n'a pas vraiment joué dans sa tête. Elle a su que même si elle a fait face à de l'adversité en début de combat, elle a été capable de terminer fort. Leila était vraiment prête à disputer ce combat-là. Le combat devait avoir lieu un petit peu plus tôt. Puis il a été déplacé parce que Jake Paul devait se battre contre Gervonta Davis, qui a eu des ennuis avec la justice. Finalement, c'est Anthony Joshua qui a pris le relais.
C'est ça qui a une volée à Paul.
Exact. Mais le combat, ça a été décalé de quelques semaines. Donc nous, on était à la toute fin de notre préparation. Tout était à bien aller. Puis à la toute fin, quand ils ont déplacé ça, j'ai dû donner un repos forcé à Leila d'une semaine. Puis elle est tombée malade. Alors, elle n'est pas revenue à 100%. Okay. Ça ne peut pas être une excuse. Elle a tout donné. Cette soirée-là, Baumgartner a été meilleur, chapeau. Mais je pense qu'on aurait pu avoir peut-être une meilleure performance avec une Leila un petit peu plus en santé.
Toi, étant donné que, écoute, t'en as vu des combats, t'analyses ça, tu dois faire même du vidéo, tu dois t'asseoir avec ton boxeur ou ta 100%. Boxeuse. Qu'est-ce qui manque à Leila pour battre la numéro 1?
Ben, tu vois, là, dans son combat contre Baumgartner, je te dirais qu'à la limite, c'est peut-être une erreur de ma part au niveau de mon analyse que j'ai faite d'Alicia. Parce que Alicia Baumgartner, c'est une boxeuse qui est très explosive et qui est très forte physiquement. Dans les rondes de 2 minutes, c'est une fille qui va lancer un certain nombre de coups et qui va casser rapidement puisque chaque coup est déployé avec puissance, donc ça demande beaucoup d'énergie. Alors, dans la deuxième moitié de combat, Baumgartner avait une tendance à casser. Parce qu'elle est puissante, mais parce que c'était des rondes de 2 minutes, puis le tempo était élevé. Là, on s'est battu sur 12 rondes de 3 minutes, ce qui lui a permis d'aérer sa boxe et de garder sa puissance tout le long du combat. Alors, elle utilisait les feintes, elle a été une fine renard dans sa tactique, mais ça l'a fait en sorte que mon analyse n'était pas tout à fait juste parce que on avait une notion sur du 2 minutes, puis là, on était sur du 3 minutes. Alors, j'ai fait avec ce que j'avais. Je prends une partie du blâme là-dedans aussi. Mais écoute, pour Leila, je suis pas mal persuadé que si on refaisait un combat contre Baumgartner, ça serait pas mal.
Ça serait différent.
Puis, mettons, après un round, est-ce qu'il y a des plans B, C, D, E, F que, OK, c'est pas ce que je pensais, on réajuste
là-dessus? En fait, c'est souvent même pendant le round.
Pendant, OK.
Pendant le round, il y a des adaptations qui se font. Puis ça, justement, c'est une force de Leila. À chaque fois que le combat ne se déroule pas exactement comme on veut, elle répond très bien à ce qui va lui être demandé. Alors, si elle ne gagne pas, après ça, il y a une partie du blâme qui vient de notre bord aussi.
Est-ce que toi ou Leila avez un rituel ou une superstition ou quelque chose que vous faites avant d'embarquer sur le ring ou quelque chose de particulier? Là,
C'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup d'athlètes puis beaucoup d'entraîneurs qui ont des superstitions. Moi, j'en ai pas vraiment.
Okay.
Leila non plus. On a certaines routines qu'on va faire. Donc, demain matin, on va faire ce qu'on appelle une activation. On va venir éveiller son corps. On va venir éveiller son système nerveux. Par la suite, moi, j'ai les journées de combat, j'ai tout le temps un jogging que je dois faire, puis une petite période de repos. Je dois aussi tout défaire mon sac puis le refaire pour m'assurer qu'il manque rien. Léla, elle a un petit peu sa routine aussi par rapport à son sac où elle va tout placer ses affaires. Donc, on n'est pas des gens qui attendons le combat, mais des gens qui se préparons pour aller au combat.
Mm-hmm.
Il semble se développer des maudits bons entraîneurs au Québec, là, parce qu'on voit là, souvent... Il y a aussi là, ton, c'est Marc, là, Marc Ramsey, ouais, qui est un peu ton boss. Je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, vous travaillez ensemble. Puis là, les gens, ces boxeurs-là partout sur la planète viennent au Québec pour travailler avec vous autres. Exactement. Qu'est-ce que vous avez de différent de monsieur, même tout le monde qui est à New York, qui est peut-être à Los Angeles, qui est peut-être partout sur la planète?
En fait, après ma barre, je dois lever mon chapeau à Marc puis le remercier parce qu'il m'a fait confiance quand même dès un jeune âge là, pour que je puisse travailler avec lui. C'est quelqu'un qui a toujours su bien s'entourer et puis être à l'écoute aussi des boxeurs, bien que souvent, le rôle d'entraîneur fait en sorte qu'il met une façade devant lui qui a de l'air inaccessible. Il est très à l'écoute, il a une bonne lecture des différents athlètes. Et je pense que les résultats qu'il est arrivé à obtenir avec des gars comme Jean-Pascal, Eléder Alvarez, Oscar Rivas, Arthur Beterbiev font en sorte que sa notoriété est connue à travers le monde et que les gens se disent « ben moi aussi, je veux devenir un champion du monde. » Ça pourrait être une bonne option pour moi puisque chez les professionnels, il a accompli de grandes choses.
En deux minutes, là, demain, entre autres, Wilkins Mathieu, c'est un gars de la place aussi. C'est trois frères qui sont, tu sais, c'est très dynamique. Il y a le support familial, tout ça. Le gars a une fiche de 15-0, mais je pense que demain, c'est vraiment son premier sérieux adversaire.
C'est un médaillé olympique.
Ben oui, c'est
exact.
Ça. Là, c'est...
Il y a des médaillés de bronze aux Olympiques.
C'est à Londres, hein, c'est ça?
C'est un boxeur qui est très bon, très rapide. Il est gaucher. Nous, on l'avait déjà fait venir il y a plusieurs années comme partenaire d'entraînement pour David Lemieux alors qu'on se préparait pour un combat de championnat mondial contre Billy Joe Saunders. Belle technique, belle vitesse. C'est pas le plus grand cogneur, mais il a assez de force de frappe pour se faire respecter, puis il faut le prendre au sérieux. Si Wilkins arrive là, puis il a pas pris ça au sérieux, il pourrait se faire jouer un tour. Ceci étant dit, je l'ai vu les quelques dernières semaines au gymnase, il mettait beaucoup les gants avec Moreno Fendero, qui est un de nos boxeurs, qui va aussi boxer sur la carte, qui est gaucher. Donc, j'ai une bonne idée de où se trouve Wilkins, puis...
On a des bonnes chances demain.
Mais ce que j'aime de Wilkins, c'est qu'il va toujours y aller une étape à fois. Là. Il a monté les marches de la bonne manière. En tout cas, sa carrière est exceptionnelle jusqu'à présent. Là.
Il est très athlétique. Il a un beau style. Je trouve qu'il est très le fun à voir aller pour initier les gens à la boxe. Quand tu vois un boxeur qui a un charisme comme ça, qui paraît bien, qui s'exprime bien, qui bouge bien, qui fait des knock-outs, ça donne le goût de suivre ça un petit peu davantage. Puis ben, comme c'est un gars de Québec... c'est toujours plus le fun.
Puis comment avant le combat? Comment ça se passe pour lui au niveau mental puis au niveau physique? J'imagine qu'il était top prêt, là, mais quelques heures avant le combat, pour lui, y a-t-il une nervosité qui s'installe un peu?
Écoute, Wilkins, je travaille pas vraiment avec lui. C'est Giuseppe Moffa qui est son entraîneur. Okay. Avant Giuseppe Moffa, c'était Mike Moffa, le père de Giuseppe, qui était l'entraîneur de Wilkins. Et là, les deux se réunissent, père et fils, dans le coin pour le combat. Je pense que Wilkins, selon ce que j'ai pu voir au fil des ans, parce que je le suis depuis qu'il est tout jeune, c'est quelqu'un qui réagit très bien à la pression. Là, lui, il voulait se mettre une pression en étant le main event à Québec, avec un test devant lui, un gars qui a pas beaucoup de défaites, un gars qui fait bien.
C'est un vétéran aussi. Là.
Exactement. Puis il y a le jeu de comparaison aussi, puisqu'il s'est déjà battu contre un Québécois, Patrice Volny. Donc là, ça va permettre de voir un petit peu où est-ce qu'on en est avec Wilkins Mathieu. Puis, il est très jeune. Pour aller chercher un tel défi à cet âge-là, avec l'expérience qu'il a, c'est très bien. Ça démontre son cœur et son courage.
On nous dit sur les textos que tu es un super motivateur.
Merci.
Merci beaucoup, Samuel. Merci. De relais. Puis bon, je vous souhaite que des victoires demain. Puis, Léla, là, un huitième gain, ça serait bien le fun.
Merci bien.
Il y a un 15e, c'est-à-dire.
Oui,
merci
exact,
bien.
Exact. Ça fait plaisir.
Ce segment d'émission est présenté par Rampe Gardex. Depuis 25 ans, on redéfinit vos espaces extérieurs avec style. Rampe Gardex, boulevard Amel Québec et rue Albert Dion à Lévis.
Le retour de Radio X.
Petite pause. On revient dans pas longtemps.
Radio X.